Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Constance et je suis la cofondatrice de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je suis avec Aurélien Carlas qui a repris les rênes de l'entreprise Kinakaru en 2019.
Bonjour.
Donc on est à l'Impérator, au grand hôtel de Nîmes, qui a référencé aussi les produits Kinakaru.
Tout à fait.
Donc Kinakaru, c'est une entreprise d'Occitanie, productrice d'apéritifs au quinquina et de vermouth, créée en 1928.
C'est ça.
Donc merci Aurélien d'être avec nous aujourd'hui.
Eh bien, avec plaisir d'être là aussi avec toi et de pouvoir partager un moment aussi de culture, on va dire.
Merci ouais, de nous raconter ton projet et tes ambitions dans, ouais. dans un lieu en plus quand même super sympa.
Tout à fait.
On en profite.
C'est ça.
Donc déjà, quand on parle de Kinakaru, on parle d'une entreprise presque centenaire. Est-ce que tu peux nous parler de son histoire et de sa fondation ?
Oui, bien sûr. En effet, Kinakaru est une vieille histoire, puisqu'elle démarre quand même en 1928, donc dans le département de l'Aude, et notamment sur le village de Fabrezin. Ok. Et c'est André Carreau, le fondateur de cette marque, qui avait imaginé une recette au départ de quinquina. Donc il faut savoir que le quinquina est quand même arrivé sur les tables fin du 19e siècle, enfin plutôt 1800, pardon, fin 1800, début 1900. Et il y avait des marques très connues comme Beer, Saint-Raphaël et d'autres rêves que l'on a tous un peu derrière le bar, qui avaient déjà sorti des recettes au quinquina en bouteille. Et André Carreau avait eu l'idée de créer une recette en sachet. Donc, je reviendrai sur le quinquina pour vous expliquer un petit peu, mais pour parler quand même de ce sachet qui était quand même emblématique des Corbières, notamment de la zone dans l'Aude des Corbières. C'était un sachet de 8 plantes aromatiques qui contenait de l'écorce de quinquina et c'était à faire soi-même à la maison. Donc en fait, on achetait ce sachet qui faisait 80 grammes et on le laissait macérer dans un alcool puisque tout le monde était un peu bouilleur de cru parce qu'on était tous, enfin ils étaient tous à cette époque-là viticulteurs. Et il y avait tout le monde qui avait, tout le monde avait droit à de l'alcool et de la distillerie coopérative. Et on utilisait donc cet alcool vinique pour faire des macérations avec ce sachet. Et on rajoutait 5 litres de vin, notamment de vin rouge, parce qu'en 1928, c'était quand même plus souvent du vin rouge, parce que le vin rosé, le vin blanc n'existait quasiment pas. Et on travaillait donc sur une macération vinique pendant quelques jours et on rajoutait un peu de sucre après filtration. Donc, c'est comme ça que la marque Kinakaru a démarré et qu'André Carreau a démarré son premier business, puisque donc il s'est inspiré de ce qui existait, comme je vous disais tout à l'heure, sur les quinquina. Donc, et le quinquina, pour y revenir, c'est un arbre qui pousse principalement en Équateur et en Afrique. Donc, on est sur un arbre qui a en fait une écorce qui est assez longue avec un tronc quand même assez grand puisque ça peut mesurer quand même 3 à 4 mètres. Et on l'utilisait beaucoup sur notamment pour les tribus sud-américaines contre le palu, la malaria et surtout comme produit tonifiant. C'est pour ça que les vieux slogans de l'époque, c'était boire en quinquina, boire en fort et beau. C'était l'apéritif des familles. Même les enfants avaient droit à leur verre de quinquina quasiment au quotidien ou surtout avant l'hiver pour soigner, pour prévoir en fait la grippe. Voilà, c'est comme ça que Kinakaru a démarré et qu'André Carreau donc a développé son affaire parce que la famille Carreau était propriétaire de 1928 jusqu'en 2008. D'accord. Voilà. Pour continuer sur l'histoire Kinakaru, c'est quand même Pierrot, donc le fils d'André, et Yvonne qui ont racheté entre guillemets ou qui ont prolongé le savoir-faire d'André Carreau jusqu'en 2008. Sauf qu'en 2008, ils avaient quand même ils avaient quand même 70 ans à peu près et bien évidemment pas de repreneur parce que les enfants donc ne voulaient pas reprendre Et donc, ils ont été obligés de vendre au lieu de laisser tomber l'affaire. Quand même, ils voulaient trouver un repreneur. Et ça a été chose faite, sauf que la personne qui l'a racheté n'a fait aucun développement. Et on sait très bien qu'une tradition qui se perpétue sans évoluer, au bout d'un moment, s'arrête, disparaît, reste un peu en stand-by pendant des années. Et c'est ce qui s'est passé, puisque de 2008 à 2018, elle a eu une petite progression parce qu'il y a eu le renouveau, mais il n'y a pas eu de vision à long terme. Et en 2018, la marque était complètement à l'arrêt. Voilà. D'accord. Tu as une question déjà là-dessus ou
Non, c'était. Je me demandais comment tu avais du coup jeté ton dévolu sur.
Ouais, sur le rachat de la marque. Ouais, ouais, bien sûr. Donc chronologiquement, en 2018, la marque s'arrête. Elle n'a plus de distribution, elle n'a plus de production de sachets. Pardon. Et pendant 2 ans, j'essaye de proposer le rachat de la marque à ce propriétaire. Qui refuse, qui est assez réticent au départ, puisque j'ai cette sensation qu'il ressent que j'ai une idée derrière la tête, mais qu'il ne peut pas lui le mettre en place, et que je suis plutôt jeune et dynamique à ce moment-là, et cette personne-là est plutôt proche de la retraite aussi, donc il a un peu de temps et de réticence voilà, avant de lâcher le morceau, donc en 2020, fin 2019 plus précisément. Et je rachète Kinakaro fin 2019, je relance la production de sachets, puisqu'il faut savoir que dans les années 60-70, les sachets étaient produits à hauteur de 60 000 exemplaires par an. Tout était fait artisanalement, à la main, etc. Tout était rempli à la main, plante par plante, parce qu'il faut savoir que la recette et l'ADN de Kinakaro, c'est quand même de travailler au gramme près pour chaque plante. Donc je relance cette production de sachets où on repasse très rapidement de 1000 sachets par an en production en 2017, je crois, pour l'ancien propriétaire, à 15 000 sachets sur l'année. Donc c'est quand même une belle progression, et pour nous c'est une façon de fidéliser la clientèle qui avait perdu un peu cet automatisme de faire son apéritif, et surtout de prolonger l'histoire quand même qui dure depuis 90 ans. Je me projette sur la production du produit fini, donc le fameux Kenkina en bouteille de la marque Kinakaro, qui n'avait jamais existé. Et donc je me lance sur mars 2020, donc quelques mois après, à produire la première bouteille de la marque. J'ai eu la bonne idée de faire dans un timing parfait, une semaine avant le Covid. Donc, arrivé, je crois que c'était pas très loin d'ailleurs de mon anniversaire, le 10 mars, quelque chose comme ça, je crois. Et je crois que le Covid arrive le 14 ou 15 mars.
Le 12, un truc comme ça.
Quelque chose comme ça, voilà. C'est une histoire de quelques jours. Et là, je finis la mise en bouteille. Je suis assez fier. Je commence à partir avec mes bouteilles, à essayer de faire déguster les premiers cavistes un peu du secteur sur les 2 ou 3 premiers jours. Et là arrive la nouvelle du Covid, et donc là c'est un coup de massue au départ, parce que tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça. Pourtant tu te dis mais j'ai de l'ambition, je suis hyper motivé, j'ai envie de faire les choses bien, et il t'arrive ça. Je pense qu'on est, j'étais pas le seul dans ce cas-là, malheureusement ou bien heureusement. Et là se passe on va dire 6 mois, 1 an de difficultés à se poser la question de comment démarrer une commercialisation sans avoir de commerce ou de restaurant d'ouvert. Les cavistes après ont réouvert, mais très réticents, malgré la progression qu'ils ont connue pendant le Covid, mais sur des produits comme les miens, c'était très compliqué de se positionner, de convaincre des clients, et surtout ne pas avoir de produits qui puissent, en fait, de prestations qui puissent me permettre de faire déguster mes produits en restauration ou en hôtellerie, dans des bars. Et donc pas de site internet, rien du tout. Donc bon, il se passe, on va dire, une bonne année à se poser des questions, à essayer de continuer à travailler, à avancer quand même malgré tout, et à garder la tête hors de l'eau. Et donc, alors là, c'était 2021, donc avril ou mai 2021, quelques temps avant quand même, j'ai un ami qui est maître vinaigrier à La Grasse, dans le petit village de La Grasse, donc, qui lit un article sur moi dans le journal, parce que j'avais eu un article, et qui m'appelle et qui me dit, écoute, on peut faire un vinaigre en sable, et en plus de ça, ça vaudrait le coup que tu viennes jeter un œil à La Grasse, parce qu'on a quand même du monde qui passe, etc. sur ce village. Et on est un village quand même où il y a de plus en plus de producteurs qui s'installent. Donc bon, on discute. On fait en collaboration un vinaigre que je te ferai déguster à l'occasion, parce que ça je te l'ai pas envoyé, mais on a quand même un vinaigre Kinakaro. Et il me propose de m'aider à trouver un local, et on commence à créer une première petite boutique en 2021. Donc ça c'est au mois d'avril mai, et j'ouvre la première boutique Kinakaro en fait à La Grasse, dans un village touristique de 400 habitants où il passe quand même du monde, mais c'est quand même un public averti, c'est un public épicurien qui vient, et donc je commence à développer de la vente en direct, ce qui m'a permis quand même de tenir le coup au démarrage, avec voilà ce côté touristique, très nature. Donc je commence à faire des dégustations, j'essaye de développer derrière aussi un peu le côté CHR, donc tout ce qui est café, hôtel, restaurant, CHD et autres, et la partie caviste, j'entame pas mal de choses. Quelques temps après, donc pour pas dire un an, on sort le quinquina rouge. Donc là, je me lance sur l'évolution de la gamme. Alors, ce qui est pas évident, parce que je pense que pour les auditeurs, qui écoutent souvent des podcasts, j'imagine, sur des spiritueux, ont bien compris que sortir une recette prend énormément de temps. En fait, c'est rare quand on sort une recette en un mois, mis à part sur des produits peut-être un peu plus industrialisés ou peut-être plus simples, mais malgré tout, il y a beaucoup de réflexions à avoir. Voilà, il faut travailler les pH, il faut travailler les acidités, il faut travailler les profils, il faut travailler surtout l'approvisionnement et les achats. Parce que d'avoir une recette c'est bien, mais après il faut savoir la reproduire à grande échelle s'il faut, et ça prend du temps. Donc bon, je sors un premier quinquina rouge, et en plus de ça, en 2022 on change de boutique, et on met plus d'ambition sur une nouvelle boutique plus grande, avec voilà un espace quand même adéquat pour accueillir du monde, pour faire des dégustations et expliquer un peu mieux la production. Et donc petit à petit on commence à faire grandir tout ça, quoi. Voilà.
Toujours à La Grasse, la nouvelle boutique.
Toujours à La Grasse, 150 mètres au-dessus, sur mieux placé, sur voilà un bâtiment beaucoup plus grand, avec un étage où maintenant on a fait les bureaux de Kinakaro là-bas, donc on peut accueillir aussi la clientèle et pas mal de personnes. Et donc nous voilà partis avec nos deux bouteilles. Je passe la petite étape de distribution nationale avec un partenaire qui n'a pas du tout fonctionné. En fait, ça fait partie aussi des, je pense, de la formation, on va dire, et de l'apprentissage, parce que on fait face quand on est débutant, et surtout avec des produits comme les miens qui ne sont pas demandés fortement, à des gens qui, par opportunité, essayent de nous, des fois, de nous faire miroiter des choses. Et quand on est débutant et qu'on n'arrive pas de chez Pernod Ricard, ou qu'on n'arrive pas de grands groupes alcooliers ou autres, on se retrouve à croire ou à espérer peut-être, et à se faire un peu avoir, parce que certaines personnes en fait ne comprennent pas la philosophie, ou peut-être qu'on l'a mal expliqué. Et c'est peut-être ça aussi l'apprentissage, c'est en termes de communication peut-être être meilleur et se perfectionner, quoi.
Mais bah après chacun entend ce qu'il veut entendre aussi.
C'est pas faux, c'est pas faux. Après je pense qu'il y a voilà, ça fait partie du jeu en fait. Voilà. Donc 2022, nouvelle boutique, la sortie du quinquina rouge, et on commence à travailler encore plus sur des partenaires locaux aussi, voilà, sur le Languedoc-Roussillon, un peu sur Toulouse, un peu voilà dans l'Aude, un peu sur le 34. Donc on essaye d'exister, on y arrive un petit peu. L'export en parallèle aussi, parce que c'est quelque chose qui me plaît. Malheureusement, c'est quelque chose qui se structure. Alors on fait voilà quelques opportunités sur les États-Unis, sur le Danemark, sur la Suisse, sur l'Allemagne aussi, où on a des importateurs, mais on a besoin encore de se perfectionner là-dessus, clairement, parce que la commercialisation, c'est un gros morceau, et il faut savoir bien segmenter voilà, la partie locale, la partie nationale, la partie export. Alors, il y a plusieurs façons de travailler, et c'est vrai qu'au début, quand on n'est pas issu de ces milieux-là, comme je te disais tout à l'heure, c'est que on apprend, on découvre. Je suis autodidacte, de la production jusqu'à la commercialisation, jusqu'à la gestion. Je suis assez autodidacte et je découvre et j'apprends, comme beaucoup qui démarrent de zéro. Apprendre de ses erreurs, c'est quand même le meilleur apprentissage, malgré que quand on apprend sur 5 ans certaines choses, certains qui sont déjà connus en fait, et ou qui ont quand même pas mal de métiers, le font en un an, et nous on s'est multiplié par 3, par 5, donc c'est de la perte de temps, mais c'est de l'apprentissage, et je pense que c'est hyper important quoi. Donc arrive 2023, et là on sort les vermouths. Donc pourquoi les vermouths? Parce que je réfléchis quand même depuis le départ de valoriser une marque locale, parce que je suis né à Narbonne, j'ai grandi dans l'Aude, j'ai quand même un peu voilà bougé à travers d'autres régions, d'autres départements. J'aime bien découvrir des cultures et autres, et je me rends compte que, surtout depuis le Covid, que les gens reviennent à une identité. En fait, on a besoin de se retrouver, quoi. Voilà. C'est quand on est du Pays Basque, on aime bien se retrouver, voilà, dans cette identité basque, breton, etc., etc.
Et il y a un engouement un peu pour les anciens apéritifs français.
Oui.
Est-ce que tu le remarques? Est-ce que tu...
Alors ça fait un petit moment que ça émerge quand même. Il y a eu un peu ce côté Frenchy, la French Touch, le Made in France, etc. C'était à l'époque de Montebourg, je crois, en politique, mais
la marinière.
Ouais, c'est ça. Too much, mais qui fonctionne. Et donc c'est vrai que ce côté français. Après, il y a eu aussi le côté vintage qui est très bien revenu. Et en fait, je l'ai ressenti, mais je surfe pas. Je suis pas trop fort pour surfer sur des modes existantes ou des modes passé, si je puis dire. J'aime bien créer ma propre partition et trouver toujours des alternatives un peu hybrides. Alors, comme on dit des fois, être entre deux chaises, voilà, c'est pas super super bien, mais par contre, je pense que c'est ce qui permet de rendre un peu la chose unique, et notamment sur des marques comme la nôtre. En effet, il fallait trouver un segment. Alors, on a l'ADN Kinakaro historique parce que on a relancé la marque de Kenkina au départ. Donc, on garde un pied dans l'histoire. On a la touche française parce que, en effet, on essaye de travailler au maximum avec des produits français, hormis bien sûr sur les Kenkina où là c'est complexe parce que il nous faut bien trouver de la muscade, de la vanille en termes de composition. On a quand même des plantes qui viennent des quatre coins du monde, mais justement, j'y viens à ce niveau-là, c'est que on voulait un axe méditerranéen, identitaire, qui reflète un peu la nature. Et c'est comme ça que j'ai créé les vermouths, parce que je culpabilisais un peu de vendre des produits qui étaient fabriqués avec des plantes qui arrivent de l'étranger. Mais ceci dit, on mangerait pas de chocolat, on boirait pas de café. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Moi, je suis partisan aussi d'aller chercher des produits à l'autre bout du monde quand on ne les trouve pas en France, par exemple. Après, faire un slip ou faire un produit ou une chaise qui peuvent être réalisés ou fabriqués en France, je vois pas l'intérêt de le faire en Chine ou ailleurs. Mais sur de la matière première, je pense que c'est important de toujours garder cette culture, voilà, de l'export. Parce que la richesse quand même que nous propose le monde, c'est quand même une ouverture d'esprit, c'est quand même des échanges, et ça je pense que c'est important, d'où l'intérêt aussi, donc comme je te disais au début de la phrase, de revenir sur cette identité méditerranéenne, et c'est comme ça que j'ai sorti les vermouths, en travaillant sur des profils un peu plus méditerranéens et des plantes qui sont à 80% issues du pourtour méditerranéen. Donc j'ai fait des recherches, j'ai commencé à travailler des profils avec une plus grande buvabilité que les Quinquina, parce que le Quinquina, en fait, les deux Quinquina sont quand même dosés en sucre entre 110 et 130 grammes pour nous permettre de travailler du long drink. Et les vermouths, je voulais quelque chose qui puisse se déguster au verre, mais avec beaucoup plus de finesse, et notamment renouveler un peu l'image. Pardon. Des vermouths qui pour moi sont assez vieillissants et sont quand même sur un axe très patriarcal, très vintage. Alors c'est pas péjoratif, mais je trouve que ça manque un peu de couleur, de vivacité, de fraîcheur. On a souvent ces vieilles bouteilles de vermouth qui sont sur les mêmes codes, un code très vintage. Voilà, quelque chose de très sombre. Sur le goût, on est souvent sur ce côté très caramélisé, fortement sucré, parce qu'on tape vite du 150 grammes, 200 grammes de sucre. Et sur des goûts qui sont quand même plus axés pour l'homme que pour la femme. Voilà. Donc la question c'était comment faire des vermouths pour renouer avec un public aussi féminin, parce que ça c'est quand même pour moi important d'avoir des produits mixtes et de permettre aux consommateurs de redécouvrir le vermouth autrement, de redécouvrir l'apéritif autrement, parce qu'aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est essayer de boire de moins en moins d'alcool. On n'est pas sur le créneau du zéro alcool, c'est pas notre créneau, et voilà, pour l'instant, ça nous concerne pas, enfin, c'est pas notre priorité. Mais essayer de travailler de la buvabilité, moins de sucre, plus de tension dans les produits, plus d'acidité, légèrement plus d'amertume ou moins en fonction de nos catégories de produits. Et petit à petit, voilà, un profil s'est présenté, un vermouth blanc, un vermouth rouge, un vermouth dry. Et ça a été de trancher vraiment sur des compositions de plantes avec toujours 3, 4, 5 plantes qui sont quand même majoritaires. Et affiné avec d'autres plantes, puisqu'on a un vermouth blanc qui est composé de 20 plantes aromatiques, on a un vermouth rouge qui est composé de 19 plantes, et le dry qui est composé de 17 plantes. Voilà. Donc ça, c'est fait comme ça. Pour certaines plantes, je travaille avec Julien Martre, qui est à 10 km de chez nous, donc de la Grasse, qui est à côté de Montlore. Il a l'entreprise Bohémia, il est sur 3 hectares et il fait des huiles essentielles, des hydrolats. Donc je l'ai rencontré et on a aussi travaillé des profils voilà, sur certains hydrolats, sur voilà, comprendre aussi les plantes de notre pourtour méditerranéen. Et de la garrigue, notamment le buplèvre, parce que le buplèvre, par exemple, c'est une plante qui pousse en bordure de garrigue, que l'on voit très souvent quand on se balade, mais on n'est pas censé connaître cette plante, pas trop en tous les cas. Et c'est vrai qu'elle est très discrète, c'est pas comme le romarin ou le thym qui fleurit quand même. Là, on a une plante qui ne se remarque pas trop. Et j'ai trouvé un ADN assez fort, justement, avec ce style de plante. Donc, j'ai travaillé voilà, sur des axes quand même assez... voilà, nature, garrigue, méditerranée, voilà, pour avoir quand même une diversité et une palette aromatique qui est quand même très intéressante. Voilà.
Tu nous parlais tout à l'heure de ton côté autodidacte.
Oui.
Donc, qu'est-ce que c'est ton parcours avant d'arriver alors, chez Kinacaro?
Ça, c'est plutôt marrant parce que des fois, ça peut me jouer des tours, mais c'est quand même assez marrant parce que j'ai jamais été bon à l'école. J'ai jamais réussi à passer 8 heures sur une chaise à devoir écouter des cours et ne pas pouvoir m'exprimer ou de pas essayer de pouvoir essayer de voilà
sortir du cadre un peu.
Ouais, je pense que c'est à la fois un peu une éducation qui fait que dans la vie, ben, il y a des gens qui sont plus portés sur des études ou à se canaliser. Il y en a d'autres qui sont plus explosifs. Moi, j'étais plutôt dans la dernière vague et donc j'ai arrêté l'école en seconde, entre guillemets, l'école générale, on va dire. J'ai fait 7 mois ou 6 mois de cours et je crois que c'était à l'époque des CPE. J'ai fait 2 mois de grève, je crois. J'étais un des premiers à faire grève. Enfin bon, voilà, j'étais pas, pour être honnête, voilà, j'étais pas une lumière, comme on dit, mais ça n'empêchait pas que j'avais une volonté, c'était de pouvoir travailler, de faire les choses correctement et d'essayer de se débrouiller, parce que j'étais assez autonome très jeune. Et donc, je suis parti à un CAP protestantaire. Voilà. Donc je me suis lancé là-dedans. J'ai réussi le CAP, j'ai trouvé un patron, je suis parti en bac pro, enfin en BTM, brevet technique des métiers. Donc j'ai fini aussi mon apprentissage en alternance. Donc voilà, 4 ans de passé. Je valide donc mes 2 formations avec voilà un CDI à la clé. Donc je me lance voilà chez un patron, je passe chef de labo, je suis responsable de la partie céramique. Donc voilà, c'est la partie prothèse fixe, enfin voilà, pour pas rentrer dans le détail, mais en gros je fais 1 an de plus, et au bout d'un an en fait ce qui se passe, c'est que je travaillais 80 heures semaine. J'avais toujours envie de travailler. C'est le travail, je trouve que c'est un lien social, c'est une motivation d'exister, de s'embellir, à, comme le sport, parce que j'aime beaucoup le sport aussi. Et donc à côté du laboratoire de prothèses dentaires, il y avait un cordonnier qui arrivait le matin à 7h, il me voyait déjà au boulot, il repartait à 19h, il me voyait encore au boulot, il me disait, mais tu te rends compte qu'avec les heures que tu fais, si tu montes une cordonnerie, tu peux quand même bien gagner ta vie. Parce que j'avais un salaire plutôt correct, parce que j'avais quand même 19 ans, 20 ans, et j'avais un bon salaire. Et donc on discute, voilà, et on commence à discuter sur ce métier de cordonnier multiservice, donc qui était une multitude de services, et j'y prends goût. Donc j'y vais 1 heure par jour, ou entre midi et 2, je lui file un coup de main, je commence à réparer quelques chaussures, je commence à faire des clés, à faire pas mal de choses, et au final je me dis, pourquoi pas tenter l'aventure, parce qu'il me manquait du lien en fait social, parce que le métier de prothésiste dentaire, tu vois uniquement des dentistes qui sont tes clients, mais tu les vois une fois toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, mais c'est voilà, c'est pas un vrai lien. Et donc je décide de déposer ma démission. Donc voilà, on trouve un accord. Je me forme 3 semaines chez mon collègue cordonnier et je lance ma cordonnerie. Donc je vends ma voiture, ma moto, et avec ces petites économies que j'ai, j'achète du matériel de cordonnerie à Clermont-Ferrand, que je vais chercher en camion, enfin je trouve un local du côté de Perpignan, et je lance ma première aventure professionnelle en tant que chef d'entreprise, et voilà. Et là, en 2012, le 15 octobre 2012, ouverture de mon magasin, petit à petit je crée un bon business, quoi, parce que en partant de zéro et en 5 ans, j'ai réussi à créer une entreprise qui a pu faire vivre une personne aussi employée au sein du magasin, et de me permettre de m'épanouir en tant que chef d'entreprise. Sauf qu'au bout d'un moment, t'as besoin d'autre chose, et c'est un peu comme un bail en fait. Alors c'est pas un 3-6-9, mais 5 ans, voilà. À partir de 5 ans, je sentais qu'il me fallait vivre une autre aventure, et je vends mon magasin. Donc je récupère un peu de cash, et j'en profite quand même pour partir quelques temps en voyage. Donc j'avais un fourgon aménagé, et je me fais le tour de la mer Adriatique, où je rencontre des gens, je rencontre des cultures, je réfléchis aussi à ce que je pourrais faire. Et c'est vrai que je me dis, t'aimes quand même les grands espaces, j'aime le sport extérieur, la montagne aussi, j'aime voilà l'escalade, j'aime tout ça, le trail. Et j'ai un oncle qui était viticulteur du côté de Perpignan, mais dans la vallée de la Glie, qui est une magnifique vallée où il y a de très grands vignerons, du côté de Maury, Saint-Paul-de-Fenouillé, enfin voilà, il y a de belles références là-bas. Et après réflexion, je me dis, ben pourquoi pas te lancer dans le métier de vigneron. Aucune expérience, en partant de zéro comme d'habitude, ça c'est la marque de fabrique. Et je me dis, bon allez, pourquoi pas, ça peut être sympa, faire ton vin, essayer de le vendre. Et là je me lance dans le BPROA. Donc en fait c'est le responsable d'exploitation agricole. C'est en fait c'est un brevet en gros qui te permet de pouvoir t'installer et te lancer dans l'agriculture en tant que chef d'exploitation. Et me voilà parti un an d'études et en parallèle à travailler des vignes, à commencer à comprendre comment faire du vin. comment amener le raisin jusqu'à la cave, parce que c'est un métier qui est passionnant et Dieu sait qu'il est dur. Et ça, c'est une petite pensée aussi pour nos amis viticulteurs et vignerons, parce qu'en ce moment, ils traversent une crise un peu importante, mais je pense que c'est des métiers qui ont besoin d'être en permanence, en évolution permanente. Et donc, je me lance dans cette aventure en 2019, avant de racheter Kinakaro, donc. Et je me lance sur 4 hectares. Voilà. Donc, je commence à travailler la vigne, je valide mon BPREA, je fais mes premières vendanges, je sors mes premiers millésimes en blanc, en rosé, je fais un petit rouge. Donc, j'ai une gamme de 3 bouteilles. Et là, je commence à découvrir aussi la commercialisation de vin. Voilà, je découvre tout de A à Z. Et voilà, petit à petit, ça se met en place. En parallèle, donc, il se passe l'achat, donc le rachat de la marque Kinakaro, et je travaille sur les deux projets en même temps.
D'accord.
Voilà.
Encore aujourd'hui ?
Alors, justement, j'ai les deux projets qui évoluent. 2022, c'est 2022 de tête, hein, je sais plus. 2022 ? 2020. Non, je crois que c'est 2020. 2020, pardon. Donc, 2020... J'ai un doute sur l'année. En gros, il y a une crise de mildiou énorme. Le mildiou qui est le champignon de la vigne qui intervient après de fortes pluies, beaucoup d'humidité, de chaleur, entre guillemets. Et c'était la deuxième année où je passe de 4 hectares à 10 hectares parce que j'ai une opportunité de récupérer 6 hectares de vigne sur des endroits magnifiques à l'Esquerde, donc sur des sols de granit. Enfin, bon, voilà, des typicités de sols qui me plaisent beaucoup. Et donc, me voilà parti sur 10 hectares en parallèle avec Kinakaro que j'avais racheté et une saison humide comme jamais, une crise du mildiou qui arrive là à fond. Et là, impossible de me battre parce que je faisais sous-traiter en partie les traitements et tout le monde... C'était le branlement de combat. Même les plus grands vignerons du secteur nous disaient qu'ils n'avaient jamais vu ça. Les anciens nous disaient que ça faisait 30 ans ou 40 ans qu'ils n'avaient pas vu ça. Enfin bon, pas de chance, mais il faut croire que c'est le destin qui le décide pour toi. Et je perds, je crois, 70% de la récolte, voire 80%. Et là, c'est un gros coup parce que les économies que j'avais faites la vente voilà, de mon commerce m'avait permis de me lancer et j'avais perdu quand même pas mal d'argent. Et je me retrouve voilà avec une exploitation qui perd quand même beaucoup d'argent. Bon, je dirais que ça c'est un peu la norme chez un vigneron, c'est qu'au début tu perds beaucoup d'argent. Mais là je trouvais que c'était dur parce que de passer de métier où je gagnais encore bien ma vie, j'avais du temps pour moi, etc., à un métier où voilà où tu connais l'isolement, la solitude, le travail à l'extérieur seul et vraiment perdre pas mal d'argent. J'avais pas analysé ça en fait. Je suis quelqu'un qui est explosif, comme je disais, qui fonce au départ tête baissée, et j'avais pas pris le temps d'analyser cette situation-là. Et donc, Kinakaro évoluait en parallèle, et il m'a fallu faire un choix, c'est voilà de réduire l'activité agricole, de la continuer vraiment au strict minimum, et de me concentrer que sur Kinakaro. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé, et
T'as retrouvé le côté contact aussi.
Complètement. Et travailler sur des innovations, des produits originaux aussi. Voilà, ce qui te rend différent par rapport au vin. Malgré tout, tu peux faire des produits complètement différents des autres avec le vin. C'est comme je disais, c'est un métier fantastique. Mais Kinakaro, je trouve qu'il y a plus d'engouement et ça reste une marque. Et avant de créer une marque dans le vin, c'est plus complexe. Tandis que dans les spiritueux, quand même, on arrive, je trouve, plus facilement à créer voilà, une atmosphère en fait, de marque qui va de suite nous différencier, quoi. Voilà. Ça, c'est quand même le facteur hyper important. Voilà.
D'accord. Et donc aujourd'hui, dans la gamme Kinakaro, il y a donc les 3 vermouths.
Oui.
Les 2 quinquina.
Voilà.
Rouge et blanc.
Oui.
Et un vinaigre, apparemment.
Alors, un vinaigre, mais que je commercialise pas. En fait, c'est mon pote Cyril qui le commercialise et moi je l'ai au magasin. Voilà, parce que c'est un peu funny, quoi. C'est un peu sympa. Et voilà, c'est plutôt un projet plutôt amusant, ça. Okay. Voilà.
Et est-ce que tu commercialises toujours les sachets d'aromates de 1928?
Oui, ça on le fait que sur du local. D'accord. Parce qu'il n'y a qu'une demande locale. Il y a des fois quelques grands-pères ou grand-mères qui m'appellent. Alors, c'est le côté un peu sentimental de la marque et c'est ce qui me fait plutôt rigoler, ce que j'aime bien aussi par moment, parce que on a tendance à essayer de travailler le plus professionnellement possible, si je puis dire. Et quand on travaille en B2B, c'est vrai qu'on a des échanges très... très carré, très, on essaye d'être, voilà, d'apporter pas mal de choses, et on parle beaucoup prix, on parle beaucoup stratégie, etc. Et des fois, t'as un petit coup de fil d'une grand-mère qui est de 80 ou 90 ans, qui ne gère pas Internet, qui te demande de lui envoyer des sachets et qu'elle t'envoie un chèque et tu reçois une petite carte nominative, comme il faisait à l'époque, avec l'adresse, tout, un petit mot derrière. Et je trouve que c'est quand même assez sentimental et c'est très attachant parce que ça te permet de garder les pieds sur terre aussi et de pas partir dans des rêveries un peu qui te feraient perdre un peu la tête par moment, et je trouve que ces petits coups de fil permettent de stabiliser aussi la chose et de te dire bon, n'oublie pas que tu t'arrives déjà de très loin, parce que j'imagine que le patron de grandes marques industrielles n'a pas de coups de fil de gens comme ça, et ça te permet aussi de te forcer, entre guillemets, et de t'obliger à conserver ce lien de l'historique de la marque. Et je trouve que c'est quand même bien pour des gens qui ont toujours fait l'apéritif depuis 60 ans, peut-être, ou 50 ans, et que de leur permettre de perpétuer ce... Voilà, parce qu'après, c'est toujours... Il y a toujours le petit-fils ou le fiston qui a repris un peu le truc, et c'est sentimental, en fait, c'est juste sentimental. C'est vraiment ce côté très humain qui pour moi est toujours important dans le business, dans l'aventure professionnelle, où en fait ce qu'il faut, c'est conserver l'humain au centre du sujet, parce que dès qu'on a plus d'humain, on perd quand même beaucoup de notions, je trouve. Voilà. Et donc voilà, petit à petit, ça se met en place. Et on a aussi la marque Pardi, qui est un spritz que nous avions lancé à la fin du Covid, je crois, avec la famille Antèche, des Blanquettes de Limoux, sur le secteur donc de Limoux, et qui est une très ancienne maison historique de Limoux, précurseur sur la Blanquette, donc ça fait 7 générations maintenant, je crois, avec Baptiste, qui représente la dernière génération. Pendant le Covid, on s'est rencontrés, et en fait, avant Covid, post-Covid, on s'est rencontrés sur une soirée, et un bar faisait un spritz avec mon quinquina blanc et leur Blanquette. Et donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée, pendant le Covid, comme on s'embêtait un peu, de travailler sur une recette ensemble pour en faire une marque, et vendre un package complet pour faire un spritz.
D'accord. Voilà. Super.
Donc.
Et alors, apparemment, tu fonctionnes plutôt par perte de 5 ans par 5 ans.
Ouais.
Dans 5-10 ans, tu te vois où avec Kinacaro?
Alors là, l'occurrence, sur des projets comme ça, il faut avoir des projections à 10 ans. Voilà. Ouais. Au moins 10 ans, voire 15 ans, parce que là, ça va faire, alors si on compte, 2020 ou 2021 plutôt, ça fait 3 ans, 4 ans, que je suis sur Kinacaro. Je pense que je me laisse encore 10 ans pour faire progresser la marque, développer des nouveautés, imaginer d'autres projections aussi sur la marque, parce que je pense que c'est quand même assez limité sur des marques comme ça. On a pas de barrière, on n'a pas de limite, on a pas de limite déjà de vente, ça c'est quand même extraordinaire de pouvoir te dire que tu peux vendre à New York, à Tokyo, n'importe où dans le monde, et je pense qu'il y a beaucoup à faire d'abord. On va essayer de s'éclater là-dedans, parce que c'est quand même le cas, et c'est quand même assez sympa de pouvoir te dire qu'un jour, si tu voyages, je l'espère, je touche du bois, mais de pouvoir partir à un endroit et de te dire que tu peux commander un Kinakaro à l'autre bout de la planète. Quoi. Mais voilà, pour l'instant, c'est focus voilà, sur le développement de la marque, ouais, en effet, sur les prochaines années. Ouais.
Ok, super. Eh ben, merci beaucoup
avec plaisir.
Aurélien pour cet échange, c'était hyper intéressant. Et donc, merci de nous avoir fait découvrir ces délicieux apéritifs, hein, que ce soit quinquina, vermouth.
Clairement, les apéritifs, voilà, c'est un secteur qui revient beaucoup, qui est très intéressant, qui est très polyvalent et que je considère tout aussi difficile à faire qu'un spiritueux comme un rhum, un whisky ou un gin. Et clairement, il y a de la place pour des marques comme les nôtres pour faire découvrir aussi aux consommateurs des choses différentes et des choses qui ont le mérite d'exister surtout. Voilà.
Super.
Donc non, merci à toi surtout de m'avoir donné du temps de parole et de pouvoir le présenter à tes auditeurs et à ta communauté.
Bah, c'est un plaisir pour nous et on souhaite une très longue vie à Kinakaro.
Yeah. Merci.
Et pour les auditeurs d'Eau de Vie, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.
À bientôt.
Eau de Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de Vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.